Nous accueillons donc le pasteur, M. Marcel Pichet, et la parole que le Seigneur a placée sur son cœur, qu'elle nous soit donnée avec toute cette richesse pour édifier l'Église. Que Dieu bénisse notre frère. Amen.
Gloire au Seigneur et à lui seul la gloire, en effet. Je ne suis pas un étranger ici. Mon fils a été baptisé ici, il y a quelques années. Et puis, personnellement, j'ai passé toute ma jeunesse à Saint-Malo. Je suis né à Nice, mais mes parents sont d'origine bretonne. J'ai tous mes grands-parents dans la région et à Saint-Malo même. Tous sont maintenant, bien sûr, partis dans la gloire, mais sont du cru. Voilà, c'est donc un Breton qui est avec vous. En toute simplicité, je me suis converti à Saint-Malo avec le pasteur Jean Nédélec en 1956, c'était avant-hier. Et puis, ensuite, le Seigneur m'a appelé d'une manière très précise à partir en Côte d'Ivoire pour construire une école primaire, en prendre la direction, selon des paroles précises, et enseigner les enfants dans la parole de Dieu. Ce que j'ai fait de 65 à 69. Ensuite, je suis rentré, j'ai fait toute ma formation pastorale dans le sud de la France, et puis je suis reparti sur un appel encore très précis, pratiquement au même endroit, à Katadji, dans la tribu Abidji, de 77 jusqu'à 92. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, ce qui avait déjà été établi sur place par d'autres frères missionnaires, M. Olé, M. Lin, puis avant encore M. Brisset, etc., dans cette région du pays Abidji, a été ensuite fermé, parce que les circonstances ont été ainsi. Et il a fallu donc, sur un appel précis, retourner pour reprendre à zéro, je puis dire, ce travail d'enseignement de tous les pasteurs qui dépendaient de la mission française des Assemblées de Dieu dans la région Abidji. Donc en 1977, j'ai débarqué en pleine brousse pour atteindre la maison où je devais loger. Il a fallu tailler à la machette. Pour ouvrir les volets, il a fallu abattre des arbres, parce qu'en peu de temps, la brousse avait repris tout cela, et c'était vraiment la brousse épaisse. Et voilà qu'en quelques mois, tout a été rétabli. J'étais seul, absolument seul, avec mon épouse qui m'a accompagné à ce moment-là. Au premier séjour, j'étais célibataire. Et puis donc en 77, j'étais marié. Et notre fils Daniel, qui avait 2 ans, donc, a fait ses premiers pas africains là-bas. Ma fille, qui est arrivée à ce moment-là, puisque mon épouse avait 7 mois lorsque nous avons pris l'avion pour nous installer dans la Brousse, était à 7 mois de grossesse. Donc, tout de suite, j'ai une fille qui est ivoirienne. Voilà, et lorsqu'elle a passé ses examens en France, quelqu'un est venu dire « Mais mademoiselle, vous êtes trompée de place parce que c'est une jeune fille ivoirienne qui est ici. » Elle dit « Mais je suis ivoirienne. Je suis née en Côte d'Ivoire, mais vous voyez, j'ai la peau blanche. » Voilà. Et donc, le temps passant, nous avons pu, par la grâce de Dieu, conduit d'une manière précise, développer l'Institut pastoral, qui est devenu maintenant quelque chose de très moderne, très développé. Et alors qu'en 77, il y avait, du côté français, 12 pasteurs et 2 stagiaires, nous sommes arrivés maintenant sur l'ensemble du pays, il y a 2 ans de cela, à 800, même plus maintenant, c'est dépassé, 800 pasteurs, avec toute une organisation qui est une organisation autochtone 100%. Et ce que le Seigneur a fait en Côte d'Ivoire est un véritable miracle. Mais il a fallu que des hommes consacrés, parce que je n'étais pas le seul, travaillent et enseignent les futurs pasteurs pendant 12 ans, puisque, en tout cas, l'Institut de Katadji, les études et tout l'ensemble de la formation se faisait sur 12 années, avec 4 années d'études théologiques, uniquement, pures. Autrement, il y avait des stages, etc. Donc, dans tout ce contexte, nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre, miracle sur miracle, je puis dire, parce que parti de quelque chose de tout à fait petit, élémentaire, avec, je dirais moi aussi, ma petitesse, eh bien, le Seigneur a fait une œuvre qui nous dépasse complètement. Ce qui fait qu'actuellement, dans les assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, il y a autour d'1 400 000 membres. Et tout cela s'est développé par la possibilité d'avoir accès à l'ensemble du pays, ce qui est un décret du président Houphouët-Boigny et qui a ouvert le pays à nos assemblées d'une manière exceptionnelle lorsqu'en 1973, il y a eu une action du Saint-Esprit qui, en l'espace d'un an et demi, a amené 600 000 personnes au Seigneur. C'est quelque chose de grand, de glorieux, et à Dieu seul la gloire. Voilà, ce n'est pas le but de ma présence parmi vous que de rendre ce témoignage, mais c'est pour situer un petit peu le contexte. Maintenant, à la retraite, je suis rentré d'abord pendant une douzaine d'années dans le sud de la France, et j'étais pasteur d'une assemblée de 260 membres adultes. Et puis, la retraite est arrivée et j'ai perdu mon épouse en 2004. En 2005, j'étais donc en retraite et je suis revenu vers ma famille qui est dans la région malouine. Voilà. Donc, certains parmi vous me sont bien connus. J'ai beaucoup d'affection pour eux. Et d'autres, eh bien, je fais votre connaissance. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse tous ensemble. Gloire à son nom. Notre sujet, notre propos ce matin est Jésus, source d'eau vive. En effet, nous avons besoin les uns et les autres de revenir sans cesse à cette source. Si nous voulons voir les œuvres de Dieu se manifester dans notre vie, un psaume dira ceci, ceux qui chantent et ceux qui dansent, donc ceux qui se réjouissent, disent « Toutes nos sources sont en toi ». Savoir que nos sources sont en Dieu, c'est quelque chose d'essentiel parce que nous avons des citernes crevassées dans ce monde. Il y a toutes sortes de réservoirs divers et lorsque l'Écriture dit que ces citernes ne retiennent point l'eau, on est abreuvé que de vases, de limon et cela nous laisse un goût d'amertume. Mais lorsqu'on vient à la source du Seigneur, lorsque d'un cœur sincère, on cherche Dieu pour venir le rencontrer, ou plus exactement, pour que le Seigneur nous rencontre, alors les choses changent. Et nous allons parler d'une personne dont vous avez beaucoup entendu parler dans les Écritures, dans Jean 4, à partir du verset 4 et jusqu'au verset 10, puis le verset 14, d'une personne avec qui finalement, sans qu'elle le sache, le Seigneur avait rendez-vous. Donc dans Jean, au chapitre 4 et au verset 4, il nous est dit ceci, « Comme il fallait que Jésus passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Puis le verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira en vie éternelle. » Alors peut-être, vous avez, même certainement, vous avez sur votre Bible, en général, « qui jaillira jusque dans la vie éternelle ». Mais c'est un sens tout à fait limité, car en fait, l'eau que le Seigneur veut nous donner est une eau de qualité de l'Éternel lui-même. Dieu est l'Éternel, Jésus est le Fils éternel de Dieu, et ce qu'il veut nous donner est une qualité divine. Ce n'est pas seulement la vie pour l'éternité que nous avons dès ici-bas, lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés, lorsque nous sommes venus à Dieu d'un cœur sincère, lorsque nous avons cru que Jésus est le Fils de Dieu, Fils éternel de Dieu, puis par Marie, Fils de Dieu et Fils de l'homme, que Jésus est venu révéler le Père et qu'il a manifesté les œuvres de son Père, disant par exemple « Je ne fais que ce que je vois faire au Père, je ne dis que ce que j'entends dire au Père, et je le dis comme le Père me l'a dit ». C'est merveilleux. Il est donc venu révéler le Père. Et après avoir vécu 33 ans et demi d'une vie parfaite, dans une parfaite obéissance à Dieu et à sa parole, puisqu'il est celui qui a accompli parfaitement la loi et les prophètes, alors il s'est donné comme l'agneau pur et sans tache, car dès la fin de sa vie, il pouvait dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et donc, cet agneau pur et sans tache est venu donner sa vie, une vie précieuse, une vie d'éternité, une vie de sainteté, de gloire. Il est venu la donner pour chacun d'entre nous. Et là, dans un procès inique qui a bafoué toutes les règles, aussi bien de l'Empire romain que de la loi sociale hébraïque, tout a été violé pour que Jésus puisse être condamné. Mais il fallait qu'il soit condamné à la place de chacun d'entre nous. Il fallait qu'il donne sa vie. Il fallait que la croix soit dressée. Il fallait que Jésus soit cloué sur cette croix. Il fallait que ses mains, ses pieds soient cloués à ce bois, afin que, prenant ma malédiction, prenant ma misère, prenant mon péché, prenant toutes mes iniquités et tout ce qui est de nos maladies aussi, eh bien, il puisse mourir, je dirais, en vainqueur. Christ est vainqueur du péché. Christ est vainqueur de notre humanité. Christ est vainqueur de la maladie. Christ est vainqueur des puissances de ténèbres qu'il a livrées en spectacle à la croix. Il a triomphé d'elles, alléluia, par la croix. Et donc, Christ est mort pour chacun d'entre nous. Et mes péchés ont été effacés à cause de son sang précieux. Gloire à Dieu. Voilà une réalité historique. Et voilà en même temps une réalité spirituelle qui est présente et actuelle pour nous, parce qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de temps. Dieu est le Dieu de l'éternité. Donc, les jours d'Adam, comme les jours du dernier bébé qui naîtra à la fin du millénium, tout cela est sous les yeux de Dieu qui est hors du temps et de l'espace. Eh oui. Et donc, le Seigneur me connaît, le Seigneur te connaît, et il désire que ce matin, il y ait une source qui s'ouvre pour toi, et cette source, elle a commencé là, à l'autel où l'agneau de Dieu a été offert en sacrifice, où il a été immolé, où l'agneau a été attaché aux cornes de l'autel, comme dit l'Écriture, attacher la victime aux cornes de l'autel. La puissance, le mot corne en hébreu, c'est le mot puissance, la force. Eh bien, l'efficacité universelle, les quatre cornes de l'autel, vous en avez une effigie devant vous, sous la table de Sainte-Seine ici. Eh bien, ces quatre cornes de l'autel montrent la plénitude, quatre étant, on pourrait dire, l'universalité, les quatre points cardinaux, si vous voulez, dans tous les domaines. La puissance du sacrifice a été manifestée pour que chacun d'entre nous, nous soyons purifiés de nos péchés, nous soyons justifiés devant Dieu, nous soyons réconciliés avec Dieu et qu'ainsi nous devenions fils et filles de Dieu. Alors, avant d'en venir là, ayant résumé toute cette pensée d'une manière globale, je voudrais vous dire en particulier que même si nous avons des années de conversion, même si nous connaissons peut-être par cœur certains textes, voire toutes les Écritures, eh bien, cela n'est pas suffisant. Il est nécessaire, comme nous en avons besoin sur le plan corporel, que chaque jour, nous soyons abreuvés à la source de vie. Et cette femme samaritaine qui vient là à midi, ce qui n'est pas l'habitude, en général, on vient tôt le matin pour éviter la chaleur du soleil ou au soleil couchant pour avoir un renouvellement de l'eau nécessaire à la maison. Eh bien, cette femme, elle vient en plein midi parce qu'elle voulait être seule. Elle avait honte de sa condition. Elle avait peur du regard. Elle avait peur du qu'en dira-t-on des uns ou des autres, des unes ou des autres surtout, qui venaient comme elle, qui aurait pu venir comme elle, puiser, et alors qu'elle se savait femme pécheresse. Et lorsque nous considérons l'état de cœur de cette femme, eh bien, nous pouvons dire, Seigneur, dans le fond, j'étais pareil, d'une manière ou d'une autre, car l'Écriture nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ainsi, nous pouvons même à nos propres yeux avoir honte de notre passé. Mais aujourd'hui encore, est-ce qu'il n'y a pas bien des choses que le Seigneur voudrait changer dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas bien des choses que le Seigneur voudrait renouveler dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas une soif, une aspiration à ce que la somme de souffrance qui a été accumulée dans ta vie, la somme de blessures, la somme de honte, la somme de quolibets ou de paroles déshonnêtes qui ont été prononcées à ton égard comme des poignards qui ont percé ton cœur, tout cela ne peut-il pas être changé? Or, l'Écriture nous dit, dans ce que nous venons de lire, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait. Il fallait que Jésus passe dans ce lieu particulier parce que dans le plan de Dieu qui était prévu, Jésus savait chaque jour ce qu'il avait à faire, eh bien, il fallait qu'il rencontre cet homme. Eh bien, ce matin, je voudrais dire à chacun de nous, il faut que le Seigneur te rencontre. Et il faut que tu rencontres le Seigneur. Parce que avec Dieu qui est amour, l'amour, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Le Seigneur s'est donné par amour le premier pour nous, et comme dira l'apôtre, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et en retour, donc, ce que le Père voulait, c'est que des fils et des filles nombreux, bon, je ne vais pas citer plusieurs textes, cela prendrait du temps, soient entrés dans la gloire que le Seigneur a préparée pour chacun. Ainsi donc, le Seigneur a un rendez-vous avec nous. Il fallait qu'il passe par la Samarie. C'est curieux, parce que les Juifs, en général, sortaient d'Israël avant, à la base du Jourdain, passaient par ce qu'on appelle la Jordanie aujourd'hui, et montaient, re-rentraient ensuite dans le pays d'Israël, au niveau du lac de Galilée, pour éviter de traverser la Samarie. Parce qu'il y avait un conflit et les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas du tout. Eh bien, Jésus, je dirais, a transgressé la tradition. Et dans toutes les Écritures, nous voyons que Jésus a toujours respecté la loi. Mais tout ce qui était des ajouts, des opinions humaines et de toutes ces formes extérieures, on voit continuellement. Il faudrait des heures pour le mentionner, parce qu'il y en a plein les évangiles, que Jésus va au-delà de ces lois humaines qui ont été posées par les hommes. Aussi, ce matin, ce n'est pas le fait de dire « j'ai telle étiquette » qui compte. Ce n'est pas le fait de dire « je vais dans tel lieu, dans telle assemblée ». Ce n'est pas le fait de dire « j'appartiens à tel mouvement ». Non, bien que cela soit utile. Mais ce qui est important, c'est d'avoir eu dans nos cœurs, d'une manière profonde, totale, une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Et encore maintenant, jour après jour, d'avoir un renouvellement de cette eau vive. Et même si nous nous posons des questions quant à savoir comment le Seigneur va nous donner cette eau vive, ce que cette femme samaritaine dans le texte, je n'ai pas tout lu évidemment, va dire au Seigneur Jésus, mais le puits est profond, comment aurais-tu cette eau vive? Et Jésus lui parlait d'autre chose. Il lui parlait, nous le lirons tout à l'heure, dans un deuxième texte, il lui parlait de l'œuvre du Saint-Esprit, de la source d'eau vive qu'est l'Esprit-Saint, et que le Seigneur veut répandre sur son peuple encore et tout à nouveau, qu'il veut répandre dans ta vie comme un nouveau baptême, une nouvelle immersion, puisque baptizo signifie être plongé, immergé, immergé dans l'Esprit, vivant par l'Esprit, abreuvé de l'Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, et qui a été donné à toute l'Église par le Père au nom du Seigneur. Et c'est lui qui répand le Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin d'être renouvelé et de venir à cette source? Oui. Est-ce que aujourd'hui peut-être quelqu'un qui n'a pas encore fait cette expérience de plénitude peut venir vers le Seigneur? Oui. Parce que au-delà de toutes les difficultés, je dirais, que nous pouvons mettre sur notre chemin en disant « oui, mais Dieu ne peut pas me bénir parce qu'il y a ceci, Dieu ne peut pas me bénir parce qu'il y a cela, Dieu ne peut... » Viens tel que tu es. Même et surtout, lorsque la chaleur est à son comble, lorsque le soleil est à son zénith, viens tel que tu es. Viens rencontrer le Seigneur et le Seigneur va te rencontrer. Amen. Nous avec lui et lui avec nous. Et ça, c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Donc, il fallait que Jésus passe par la Samarie et il est arrivé dans une ville nommée Sichar, qui signifie l'épaule. C'est un col qu'il fallait passer. Hein ? Il fallait passer un col. Et donc, c'est un changement de lieu, c'est un changement de conception. Un changement de marche, peut-être. Est-ce que tu es prêt ce matin à accepter un changement dans ta vie? Ah, vous savez, avec les années, on devient des chats. On ronronne. Hein? Coucou, panier, papa t'en rond. Voilà, et ah, c'est bien. Et on a pris l'habitude de ceci, de cela. Mais quand le Seigneur, l'Esprit, nous réveille, il a des choses nouvelles à nous apporter. Toujours semblables à ce qu'il a toujours apporté, c'est sa parole. Mais dans de nouvelles expériences avec lui. Dans une nouvelle rencontre avec lui. Dans un renouveau de vie qui est à l'intérieur de nous-mêmes par le Saint-Esprit. Alors on va dire, mais Seigneur, mais j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Oui, il y a peut-être des années, mais aujourd'hui, peut-être quelques mots en langue par-ci, par-là. Mais où est la vigueur de la nouvelle naissance? Où est la vigueur de cette vie d'éternité? Où est la vigueur de ce zèle que donne l'évangile de paix par le Saint-Esprit? Où est l'efficacité de ton armure pour marcher avec Dieu et pour Dieu? Est-ce que le peuple de Dieu est prêt au combat? Nous sommes dans des temps difficiles. Nous allons de plus en plus vers des temps difficiles. Le peuple de Dieu est-il prêt au combat? Alors, nous avons besoin d'un renouvellement de l'esprit. Nous avons besoin d'une nouvelle rencontre pour ne pas ronronner, comme je le disais tout à l'heure, dans nos habitudes, tourner en rond dans nos ornières, avec nos habitudes. Je fais une petite image. C'est sur un marché africain. Un monsieur vendait des perroquets. Et donc, ces perroquets étaient placés sur une table ronde avec un mât de parasol au milieu. Et ils avaient tous une patte attachée au mât central avec la possibilité de tourner. Et ils tournaient parce qu'ils avaient besoin de marcher. Et ils tournaient en rond sur cette table. Et alors, un touriste qui avait quelques possibilités a vu ces pauvres bêtes là. Et avec une mentalité généreuse, a dit, mais je vais vous les acheter. Je ne peux pas supporter de voir ces animaux attachés là, je vous les achète. Donc, il a pris toutes les cordes et tous les animaux pendus au bout, tous les volatiles, et puis il est sorti du marché, et il a dit, là, eh bien, je vais maintenant vous mettre en liberté. Alors, il a défait la corde, la ficelle, la petite attache de la patte de chacun, de ces perroquets, c'était des aras. Et il leur a dit, allez, partez. Mais c'est qu'ils n'étaient pas pressés de partir. Puis il les a vus s'organiser, se suivre, reformer un cercle et recommencer à tourner. Il dit, mais c'est pas possible. Je les mets en liberté. Et il continue à tourner en rond. Est-ce que nous sommes des haras, des cacatoès, des calaos, pour faire la même chose? Bien-aimés, le Seigneur nous a ouvert une voie pour que nous allions, que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Non pas pour tourner en rond dans nos ornières, mais pour dire, Seigneur, je veux venir à ta source, remplis-moi tout à nouveau de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Et donc, cette femme s'est approchée, mais Jésus était au rendez-vous. Et ça, c'est merveilleux. Jésus était pourtant fatigué du voyage. Il a subi toute une pression pour en arriver là. Eh bien, sachez que si le Seigneur voulait se manifester au milieu de nous, il nous dirait, comme il a dit aux disciples, qui n'avaient plus du tout la vision de la puissance pour guérir quelqu'un, pour chasser quelque esprit mauvais, qui ne manifestaient rien, qui étaient dans l'incrédulité. Race incrédule et perverse, jusques à quand vous supporterai-je? Jusques à quand serai-je avec vous? Le Seigneur nous le dirait aujourd'hui, vous savez. Parce que nous marchons chacun selon nos propres idées, selon nos propres caractères, selon nos propres convoitises. Et le Seigneur a tellement de choses merveilleuses à mettre à notre disposition. Tout est accompli, c'est la parole de Jésus sur la croix. Et dans ce tout accompli, il y a également tout ce qui est nécessaire à notre vie, et à la piété, c'est-à-dire nos relations avec Dieu, et aussi à l'équipement pour aller de l'avant, et aussi pour dire « je ne suis pas trop âgé pour pouvoir servir le Seigneur » ou un autre « je ne suis pas trop jeune, je peux aujourd'hui servir le Seigneur ». Je pense à un jeune frère qui est venu un jour me visiter juste avant de partir en mission. Il avait 83 ans. Et il a travaillé jusqu'au bout, à Madagascar. Et j'ai vu ce jeune homme partir. Vous comprenez ce que je veux dire, bien sûr. Jeune homme, pourquoi? Parce que son cœur était resté vivant et jeune, renouvelé par le Saint-Esprit. Monsieur Ove Falg, qui est mort à plus de 100 ans. Et qui est...
102.
Mort à 102 ans. Je l'ai vu quelques mois avant son décès. C'était à Fertrup, dans les Vosges. Et donc, il est parti en mission. Et a continué. Et a fait une œuvre de Dieu. Glorieuse, alléluia. Voilà des vies bien remplies. Ne disons pas « je suis trop jeune ». Ne disons pas « je suis trop âgé ». Mais disons « Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Et ce que l'homme ne peut pas faire, le salut des âmes, Dieu peut le faire, car tout est possible à Dieu. » Amen. Alors, nous allons un petit peu plus loin dans cette pensée. Et Jésus va dire à cette femme « donne-moi à boire ». C'est curieux. Il semble que le Seigneur demande quelque chose. Et à chaque fois, je pourrais citer plusieurs cas des Écritures, où on voit que Dieu commence par demander quelque chose pour voir si nous prenons conscience de qui nous sommes et d'où nous en sommes. Parce que, par exemple, les disciples qui avaient désobéi aux ordres de Jésus, Jésus leur avait dit « attendez-moi sur le bord du lac de Galilée, sur la colline que je vous indiquerai ». Et effectivement, il leur a indiqué une colline, ils devaient attendre le Seigneur. Et on voit que là, dans la maison de pêcheurs qui était sur le haut de la falaise, probablement, les disciples ont dit, et Pierre le premier, « en voilà assez d'attendre, hein. Moi, je vais pêcher ». Et comme il était le leader dans cette affaire, un fonceur, les autres le suivaient sans trop discuter, eh bien, ils sont descendus dans une barque, ils ont pêché. Toute la nuit, sans rien prendre. Nous nous disons souvent, mais « Seigneur, attire des âmes à toi. Seigneur, convertis cette âme à laquelle je témoigne. Seigneur, fais ceci, fais cela. » Et puis souvent, nous ne voyons pas grand-chose. Et le plus souvent, nous ne voyons rien. Et nous disons pourquoi ? Tout simplement parce que nous ne sommes pas au rendez-vous du Seigneur. Comme pour cette femme, le Seigneur a un rendez-vous pour toi, dans ta vie, aujourd'hui, dans ta situation, dans ta souffrance, dans l'incompréhension, dans les blessures, dans tout ce qui a brisé ton cœur. Et parce qu'il le sait. Il t'a donné rendez-vous. Et ce matin, il désire que tu changes de chemin pour ne pas rester à tourner autour de ton repère unique, comme un piquet, comme ces oiseaux. Et ce repère unique, c'est ton ego. C'est ton moi. Moi, je veux que. Moi, je n'aime pas que. Moi, je désire telle ou telle chose. Moi. Quelqu'un dit « le moi est haïssable », mais il y a pire que cela. Paul va dire ceci, « moi », dans le grec c'est « moi », a été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, parce que je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est donné lui-même pour moi, afin que mon moi ne vive plus, il est crucifié avec Christ. Et que maintenant, je vive de la vie de Christ, une vie de résurrection, une vie d'éternité. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Donc tout a été réalisé pour que je ne regarde plus ce moi, cet élément qui fait toujours mon repère. Hein ? Alors, Jésus va dire à cette femme, « Donne-moi à boire. As-tu quelque chose à me donner ?» Comme il dira aux disciples au bord du lac, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils ont répondu, « Rien !» Ils étaient bredouilles. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient plus dans le plan de Dieu. Jésus leur avait dit « Attendez-moi là !» Et ils sont partis. Il y a un temps pour tout. Il y a des circonstances de nos vies. Et souvent, nous sommes tellement impatients. Et peut-être ce matin, ton cœur est impatient. Tu ronges ton frein et tu dis « Mais je vais le faire. Ah, Seigneur, tu ne m'as pas répondu, donc je vais agir. Je vais faire ceci, j'irai là-bas. » Malheur à vous qui dites « Nous irons, nous ferons, nous dirons. » Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. il y a des plans. Je connais les desseins, dira Dieu, que j'ai pour vous, Jérémie 29. Les plans bienveillants, des desseins de paix. Mais vous ne l'avez pas voulu, et chacun court après ses propres pensées. Bien-aimés, arrêtons. Venons au puits de Jacob et acceptons de franchir l'épaule, le col de la montagne, pour passer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur, marchant en son nom, marchant par son nom. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, eh bien, les œuvres de Christ vont s'accomplir, puisque ce sont les siennes, ce ne sont pas les nôtres. Nous disons souvent « je veux faire l'œuvre de Dieu », mais nous en sommes bien incapables. C'est l'œuvre de Dieu. Si c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre humaine. Acceptons que nous ne sommes pas Dieu. C'est Satan qui a dit « vous serez comme des dieux ». Alors, prenez votre propre indépendance par rapport à Dieu lui-même. Voilà le piège. Mais si quelqu'un veut dire ce matin, « Seigneur, je désire simplement te rencontrer à nouveau. Je désire franchir une nouvelle étape, franchir un col, changer de vallée, si je puis dire, pour aller là où tu as prévu que j'aille, comme Abraham, qui a dû passer aussi à Sichem, avant de rentrer dans les différentes étapes du pays de Canaan. Là, le Seigneur lui a montré peu à peu ce qu'il avait à faire. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Acceptons d'être conduits par ce que le Seigneur a prévu d'avance. Donc, as-tu quelque chose ? Non, je n'ai rien. Ce constat doit être le nôtre ce matin pour dire, Seigneur, tu vois, je me suis fatigué, je me suis épuisé à telle et telle chose dans ma vie que j'ai cru faire pour toi. Et le Seigneur va nous dire gentiment, mais est-ce que je t'ai demandé de faire ça ? Est-ce que je t'ai demandé d'aller là ? Est-ce que c'est moi qui t'ai conduit dans telle ou telle chose ? Quelqu'un me disait exactement cette phrase, cette semaine, parce que le Seigneur venait de le lui dire. Et cette personne s'est ressaisie en disant, mais en fait c'est vrai, pourquoi je suis allé dire ça ? Pourquoi je suis allé faire vers telle personne pour faire ceci ou cela ? Ce n'était pas le plan de Dieu. Apprenons à soumettre notre moi à la volonté du Seigneur. Alors, nous verrons ses œuvres, parce qu'il est le même, il n'a pas changé. Alléluia. Alors, il lui dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Ah bon ? C'est toi qui dois faire la démarche. Moi, je suis venu vers toi, dira Jésus. On peut le dire comme cela. Le Seigneur a tout accompli. Il est allé même dans les moments difficiles, en plein midi. Il a marché, il était fatigué du voyage. Il a tout accompli jusque sur la croix. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons enrichis, il s'est fait pauvre. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons vivants de la vie de Dieu, il est mort. Mais il est ressuscité, alléluia. Et aujourd'hui, il marche avec nous. Donc, si tu connaissais, que le Seigneur nous donne, comme dit l'Épître aux Éphésiens, j'ai beaucoup de textes à citer évidemment, mais on va rester sur l'idée centrale seulement. Que Dieu notre Père ou le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est la richesse de l'héritage qui s'attache à son appel. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Seigneur, tu vois combien je suis malheureux. Tu vois combien je ne peux rien. Oh Seigneur, tu vois. Et arrêtez-vous un peu. Et regardez donc au Seigneur au lieu de regarder à votre propre cœur, à votre propre capacité. Tout pouvoir, dit Jésus, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, là, il va y avoir de l'efficacité. Est-ce que nous osons croire cela, bien-aimés ? Est-ce que nous osons croire que Jésus a reçu tout pouvoir et qu'il est le Tout-Puissant, et que tout est possible à Dieu, mais aussi tout est possible à celui qui croit. Ah bon, il y a un problème. Quelque part, il y a un problème, parce que nous tournons en rond dans nos pratiques habituelles, et au lieu de vivifier notre foi par l'action du Saint-Esprit, et par la lecture de la parole, et par la foi dans la parole de Dieu, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, eh bien, quand nous recevons ces choses, nous pouvons être abreuvés par cette eau vive, non seulement qu'est le Seigneur, mais aussi le Saint-Esprit. Alors, je vais aller vers la conclusion, bien que je n'ai pas du tout développé ce qui était sur mes notes, mais je le sens comme quelque chose qui doit être actualisé pour chacun d'entre nous. Et Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de sa forme traditionnelle, qu'il a établie lui-même dans sa propre vie. Ah, moi, je suis comme ci, moi, je fais comme ça, et puis c'est comme ça qu'il faut faire. » Quelqu'un me disait, « Moi, c'est comme ça que je fais, et vous devez faire pareil. » Ben non. Ben non, c'est pas comme ça. Il faut voir comment le Saint-Esprit agit, comment il parle, comment Dieu agit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous avons besoin d'être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. Quiconque boira de cette eau, c'est comme une citerne qui renferme d'une manière cloisonnée un certain contenu, et on ne veut surtout pas déroger à ces choses-là. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. Alléluia. D'abord, il faut remplir le vase, et ensuite ça déborde. Deviendra en lui une source d'eau qui jaillira en vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, une dernière lecture qui va accomplir maintenant, parce que je ne peux pas développer trop de choses, c'est dans Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit, voilà ce que c'est que boire, c'est croire, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, c'est pas un petit ruisseau, couleront ou jailliront de son sein ou de son intérieur, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » L'Esprit était là, bien sûr, de tout temps, et avant le temps, effectivement, car c'est l'Esprit de Dieu, avant toute création. Mais, il n'était pas encore répandu dans le cœur de l'homme, parce qu'il fallait la régénération, il fallait que le vase soit purifié, il fallait que l'outre soit neuve pour recevoir du vin nouveau. Alléluia. Tout cela nous est expliqué dans les Écritures. Alors, est-ce que nous croyons que le Seigneur veut faire son œuvre dans notre vie ce matin? Est-ce que nous osons croire qu'il s'est déplacé pour moi? Mettez votre nom à la place. Pour moi, pour toi, pour chacun en particulier, de manière à ce que je sois vivifié, renouvelé, abreuvé à la seule source digne d'être reçu, d'être bu, c'est le Seigneur lui-même qui répand son esprit, l'esprit de Jésus, dans nos cœurs et qui nous rend capables d'aller, de porter du fruit et qu'alors ce fruit demeure. Alors, celui qui croit, voulons-nous croire ce matin? Celui qui vient, voulons-nous venir à la source avec nos fardeaux, nos écœurements, nos découragements, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous fait souffrir, et de dire, Seigneur, en voilà assez, je capitule. Et cette femme, lorsqu'elle est partie après, ce fardeau qu'elle avait sur son épaule, la cruche, tout ce qui était de son contenu à elle, elle l'a abandonné sur le bord du puits. Et elle est partie rendre témoignage. Qui voudra laisser son fardeau ce matin? et croire à la réalité de la visitation de Jésus au milieu de nous pour aller et être les témoins qu'il attend dans ce monde. Parce que qui rendra témoignage si ce ne sont ceux et celles qui ont été délivrés par lui et qui ont bu à sa source sainte et glorieuse. Alléluia.
Amen.
Nous prions le Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur notre Père, à cause du don de Jésus, à cause du tout accompli de la croix, à cause du sang versé qui nous purifie, à cause de l'alliance qui a été réalisée à la croix du calvaire, à cause de tout ce que le Saint-Esprit réalise maintenant dans l'Église. Seigneur, nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Nous n'avons rien par nous-mêmes, mais nous avons tout pleinement au travers de ce don parfait de Jésus. Aussi, permets que personne ne reste en dehors du dessein bienveillant et des projets d'amour et de paix que tu as pour sa vie, et que chacun venant alors, malgré les souffrances extérieures, à celui qui est la source d'eau, puisse alors boire à longs traits et être renouvelé dans tout son être. Père, dans le nom de Jésus et par l'action du Saint-Esprit, nous t'en prions. Amen.
Amen.